Here we go with the main event of the evening. Let's get ready to rumble.
Squat, droite, gauche, droite, sur les zones pour mon bla bla bla. On y croit, nature au parti. Life de Rosemont, Arthur au Garci. On va jouer, carte sur table. J'en pense quoi du combat de Jean-Pascal? On va passer pro, boxer et podcast. Le temps c'est de parler, bienvenue sur le podcast.
And the new
cette édition du podcast Laurent s'écoute parler saison 2 vous est présentée grâce à nos fiers commanditaires chez Option Notaire et Farley Avocat. Grâce à eux, Laurent n'est pas tout seul à s'écouter parler. Vas-y Laurent, on t'écoute.
En direct des studios D comme dans Divan de Laurent s'écoute parler à Rosemont, Montréal. C'est l'épisode numéro 61 de ton programme préféré. Et là, je dois admettre que ça fait 22 jours que je suis en vacances. Au moment où vous allez m'écouter, je vais probablement être retourné travailler. Et j'avais travaillé comme un malade dans la dernière année. Et je vais vous dire quelque chose. Les vacances, pour moi, c'est un prélude à ma retraite qui s'en vient en 2037. Et je suis prêt pour la retraite. Okay, les vacances, c'est comme vivre au ralenti. Tu te lèves doucement de ton lit. Tu t'habilles doucement. Tu te rends compte que tu as oublié de prendre ta douche. Tu te déshabilles, tu prends ta douche. Tu déjeunes tranquillement. Tu trouves une emplette à faire au dépanneur ou à l'épicerie. Tu écoutes la radio. C'est magique. Puis là, cette semaine, je me suis dit, je vais m'improviser vrai journaliste de boxe, comme si j'étais Mathieu Boulay au Journal de Montréal, mais moins le 135 000 par année, les 10 semaines de vacances et le compte de dépenses. J'ai fait toutes les conférences de presse disponibles sur Zoom. Puis là, je me suis rendu compte que, admettons que Camille et Stéphane y invitent les médias. Les médias, c'est 4 de boxe, c'est 4 ou 5 personnes. C'est Francis Paquin, Frédéric Daigle, Mathieu Boulay, Frédéric Duchesneau de la presse qu'on voit maintenant. Puis des fois, c'est tout. Il n'y a pas plus de monde que ça. Fait que là, je voyais aussi qu'il y avait des boxeurs, des fois qu'on leur posait pas de questions. Tu sais, dans le journal ou à radio, on s'occupe du combat final, puis on s'occupe pas de la sous-carte nécessairement. Fait que moi, je me suis mis à poser des questions. Tu sais, des fois, c'était bizarrement posé. C'était pas écrit à l'avance. Ça a donné lieu à une question un peu cocasse que j'ai posée à David Lemieux. David a répondu en un mot. J'ai découpé l'extrait. Fait que je me suis improvisé journaliste de métier l'instant d'une semaine. Et je dois admettre que j'ai bien aimé cela. J'ai écouté au complet Clarissa Shields, Marie-Ève Dicker, la conférence de presse. J'ai écouté la conférence de presse pour la sous-carte du Gala à Québec le 17 avril. J'ai écouté la conférence de presse de Christian Billy qui finalement a même plus le même adversaire. On va en parler aujourd'hui même à ton podcast préféré. Fait que j'ai tout écouté, j'ai bien rigolé. Je vais vous admettre que c'était le fun. Là. Tu sais, je me prenais pas au sérieux, j'écoutais ça, posais mes petites questions, puis écoute, c'est bien amusant. Conseil télésérie de cette semaine, on est toujours dans l'intro. Chronique Marie-Pierre Houle, mes vacances sont finies. Fin de la chronique Marie-Pierre Houle, on va parler de toi tantôt. Marie-Pierre, tu es mon sujet principal de cette semaine. Sujet principal, la boxeuse Marie-Pierre Houle sera le sujet du podcast. Je vais vous parler d'une télésérie que j'ai commencé à écouter sur Tout.tv. Désabonnez votre Netflix, abonnez-vous à Tout.tv, très intéressant. J'écoutais cette semaine un documentaire sur le Cameroun. Je me suis rendu compte que c'est un pays laïque qui réussit à bien gérer deux religions dominantes. dans une relative paix et harmonie, à part au nord du pays où il y a des terroristes. Fait que, beau pays, le Cameroun, j'ai quasiment le goût d'aller visiter ça, mais j'ai trouvé ça magnifique, puis c'est une pépinière de boxeurs pour le Québec. Il y a des documentaires sur tout.tv, mais là, j'écoute une télésérie qui s'appelle Cérébrum. Ça, là, c'est Claude Legault qui est comme le meilleur psychiatre du Québec. Un genre de Dr. Mayou, mais normal, là, qui fait pas d'esclandre. Là, c'est un psychiatre vedette. Sa femme est impliquée dans des... sa femme est impliquée dans une fondation pour que les femmes s'acceptent comme elles sont et ne cessent de se servir de la chirurgie plastique. Fait qu'en gros, sa femme, elle se fait tirer une balle en pleine tête, puis personne comprend trop pourquoi, puis on suit l'enquête de police qui essaye de trouver qui a bien pu tuer sa femme. Est-ce que c'est un ancien patient qui a fait condamner? Est-ce que c'est quelqu'un de l'industrie pharmaceutique? Est-ce que c'est la blonde de son fils? Et la blonde de son fils là-dedans, ça c'est malade. C'est une jumelle qui a des relations sexuelles avec son jumeau. Puis on voit un peu toute la folie qui peut arriver entre l'amour entre un jumeau puis une jumelle. Ok, je dis, c'est bien bizarre, mais superbe série à écouter, c'est bien fait. Cérébrum sur tout.tv, c'était ma chronique culturelle quasiment. Alors c'est la fin, là, fini, on va parler maintenant de boxe.
Bonjour mon cher Laurent, je voulais te souhaiter un merveilleux anniversaire et surtout profite de ta dernière année dans la trentaine.
Cette semaine, des fois je me sentais seul à la maison, tu sais, pendant le confinement puis le couvre-feu, puis la plupart des gens, ils répondent pas au téléphone quand je les appelle. Je pense que les salauds, ils ont l'afficheur. Il y a deux personnes qui répondent tout le temps puis qui m'écoutent. Jean-Luc Cotteret du défunt 12rondes.ca et les assurances Yves Lévesque. Puis il répond même pas pour m'assurer parce que j'ai mes assurances ailleurs, mais il répond pour me jaser. Fait que j'appelle Yves Lévesque une partie de la semaine, puis je lui demande « Avant affronter qui, Marc-Pierre? Puis comment ça se passe, les négos? » Puis, tu sais, hey, il est muet comme une crêpe, là. J'ai jamais réussi à le faire parler. Mais un soir donné, j'avais bu mon thé à camomille, j'avais mis mon pyjama, j'étais sur le point de m'endormir, j'appelle Yves Lévesque pour qu'il me borde. Puis là, il me dit « Laurent, tu vas être assommé de l'adversaire de Marie-Pierre Houle. On a mis les bouchées doubles. On est prêt. Tu vas être surpris. » Là, je me dis, mais voyons, tu sais, qui ça pourrait bien être? Puis là, dans mes réflexes de matchmaker, je fouille d'un 135 livres au Canada, parce que c'est souvent le vieux truc d'aller deux divisions en dessous pour les boxeurs, surtout quand on commence un peu à être à la dernière minute. Puis là, excusez-moi, je viens de déjeuner. Fait que là, je me rends. Le lendemain matin, je me lève. Puis je me lève tard, là, j'étais en vacances, un bon 9h05, puis je suis bombardé dans mes messages. Marie-Pierre Houle va affronter Jessica Camara. Et là, j'en reviens pas. Pourquoi j'en reviens pas? Du côté de Camara, elle a 7 victoires, 2 défaites, ok? C'est une fille qui était sur l'équipe nationale B en Ontario. Elle a déménagé dans l'ouest de Ville-de-Lille, dans le coin de Saint-Henri, j'imagine. Il a été entraîné par Yann McKellop. Tout allait bien, elle gagnait ses petits combats et elle s'est faite, ok, pas assommée. Elle s'est faite sortir de ses souliers par Natalie Brown, une fille de Mississauga, qui habite à Mississauga, qui vient de la Géorgie, qui son surnom c'est Madame la trop méchante. C'est ça son surnom. Ou si vous préférez, Too Bad. Puis c'est une fille qui... Tu sais, c'est une fille qui avait affronté les meilleurs au monde dans les années 2000, qui sort de la retraite, qui est comme âgée de 40 ans, mais elle a planté les pieds et a lancé une droite parfaite sur le menton de Camara. Tu sais, des choses qui arrivent. Puis là, Camara est allée se refaire. Elle a affronté, est allée se boxer à Washington, a gagné une majority decision. Et là, le monde commençait à être inquiet dans son entourage. Mais tu sais, en boxe, ça prend pas grand-chose. Elle bat une autre fille. Puis là, elle va affronter Mélissa Saint-Ville. Mais là, il faut que je vous le dise, Mélissa Saint-Ville, c'est la grosse affaire. 13 victoires, 4 défaites, meilleure athlète haïtienne en dehors du pays. Cette fille-là, Mélissa Saint-Ville, je vous le dis, c'est vraiment la grosse affaire. Elle a perdu décision unanime en championnat du monde, UBF. Chez les femmes, il y a bien des ceintures. UBF contre Jennifer Salinas. Elle a perdu une majority decision contre Eva Wallstrom, qui est considérée comme une des meilleures boxeuses livre pour livre. Elle a perdu une décision serrée contre Delphine Person, qu'on a vu faire la guerre avec Cathy Taylor à 2 reprises, ok? Je vous le dis, là. Écoutez-moi pas si vous voulez pas m'écouter. Mélissa Saint-Ville, c'est la grosse crème dans sa division. C'est surnommée la petite Mike Tyson. C'est une fille de fitness, ok, qui a des abdos à faire rêver dirigeants. Okay, ça vous donne une idée. Elle est classée 3e au monde dans sa catégorie de poids. À son dernier combat, elle a affronté Camara. Elle a gagné 96-94. Okay, les 3 juges. Ça, pour vous donner une idée, là, dans une carte qui était quasiment entièrement féminine, il y avait, je pense, 6 combats féminins ou 7 combats féminins sur la carte. Camara est allé chercher 4 rondes contre Mélissa Saint-Ville et à son combat suivant, l'équipe de Marie-Pierre Roule accepte d'affronter Jessica Camara. Mais bravo! Bravo, bravo. Okay, c'est ça qu'on veut. C'est le combat que moi, j'avais un âge que j'avais dit, hey, pourquoi pas ces deux-là? Puis Marie-Pierre, tu sais, Marie-Pierre, là, elle a l'air d'une fille de 21 ans, mais c'est pas une fleur du printemps, là, elle a quand même 30 ans. Bon, là, vous allez dire, elle est tout jeune, mais c'est relatif, là. Tu sais, en boxe, 30 ans, t'es comme en... On peut dire que il reste plusieurs bonnes années, mais elle a pas 21 ans non plus, tu sais. C'est... Le temps n'était pas venu d'affronter Camara, mais avec la pandémie, avec ce qu'on vit, Camara houle sur un 6 rondes. Pour Camara, c'est correct. Elle a 7 victoires, 2 défaites. Pour Marie-Pierre Houle, c'est rapide. Mais ça l'emporte et parachutée dans les classements. Et elle se ramasse à 2 ou 3 combats d'un championnat du monde. Si elle perd, désolé Marie-Pierre, là, tu sais, je sais que tu sors avec mon meilleur ami, là, puis je t'aime beaucoup, mais je me dois de faire mon métier de chroniqueur, là. Ne m'en tiens pas rigueur. Je vais y aller avec les 2 options, mais vraiment, là, écoute, je vais quand même t'acheter un cadeau à ta fête. Si elle perd. Donc, là, ce qui arrive avec Marie-Pierre, ben, c'est pas la fin du monde, puis elle peut se relancer. Puis c'est quelque chose en boxe féminine qu'on oublie, nous, au Québec. On est comme omnibulé par la culture du zéro, mais en boxe féminine, les boxeuses, ils ont une trollée de défaites qui sont dans l'élite, là. Vous laissez faire Dicker, mettons. Je vais y aller avec les 147 livres. Jessica McCaskill est 9-2. Layla MacArthur, 3e au monde, est 44-13. J'ai des exemples de même, je pourrais vous en nommer jusqu'à demain, mais là, ça va être trop long, là, mais c'est quelque chose qui existe en boxe féminine, là, de revenir d'une défaite. Donc, il n'y a pas de drame, hein, si jamais il y a des fêtes. Mais j'ai fait un sondage sur Boxing Town, c'est 60-40 pour Marie-Pierre. Je vous le dis, là, c'est un combat où moi-même, là, je paierais simplement pour écouter ce combat-là. Je regarde le reste de la carte, là. Yann Pellerin contre Marco Parente, ça va donner un bon combat. Terry Ozias, au moment d'enregistrer, là, j'ai pas encore l'adversaire. Au pire, je reviendrai dans un autre segment. Parce que je vous le dis, j'enregistre en plusieurs journées. J'ai un plan. Parce que je me dis, je suis toujours bon les premières 15 minutes. Fait que je vais faire 3 fois 15 minutes. C'est une stratégie. Donc, si je regarde la carte, okay, le combat qui m'intéresse le plus, c'est Camara Houle. Et si on est en plein dans l'essence de la boxe, dans ce que j'aime. Moi, j'aime pouvoir raconter une histoire. Puis j'aime pouvoir dire, ce combat-là qui s'en vient, c'est réellement un combat 50-50. Un combat où j'ai plein de questions dans ma tête sur Camara. J'ai plein de questions sur Houle. Puis je vais y répondre pendant le combat. Puis il y a une des deux boxeuses qui va être parachutée très haut d'un classement. Puis l'autre, qui à la limite, c'est pas une catastrophe, elle a juste à retourner au gym par monter. Il n'y a pas de... Y a, c'est juste... C'est juste du positif, ce combat-là. Je suis heureux. Je suis heureux d'avoir de l'entrain face à un combat. Je suis heureux d'être content d'un combat, d'être surpris aussi. On m'a pris par surprise. J'aime les deux boxeuses. Tu sais, Marie-Pierre, parce que elle a rendu mon ami heureux en sortant avec ce gars-là. Là. Mon ami, avant de connaître Marie-Pierre Houle, là, il était gras, il dormait pas à nuit, puis il avait l'air bête. Depuis qu'il est avec Marie-Pierre Houle, t'as 6% de taux de gras, il se couche à 10h, puis il est tout le temps de bonne humeur. T'sais, Marie-Pierre Houle a transformé sa vie pour le mieux. Donc juste pour ça, je l'apprécie. Puis Jessica Camara, je la connais pas, puis elle parle juste anglais, mais je l'ai croisée beaucoup dans les conférences de presse, puis elle est toujours souriante. Elle me dit bonjour, je réponds bonjour, hi. Puis nos conversations, ils arrêtent un peu à ça, mais tu vois que c'est une bonne personne aussi, le Cobra, là. Donc, on a un réel combat 50-50 dans l'essence même de ce que devrait être la boxe. Merci aux deux filles. Et pour ma prédiction finale, je prédis une victoire de... Désolé, j'ai eu des problèmes techniques. J'espère que tout a été arrangé avec le montage. Sinon... désolé, mais je suis content quand même d'avoir osé donner une prédiction, puis je suis en paix avec moi-même.
On dirait que t'as pas une haute estime de Junior, est-ce que je me trompe?
Non, exactement.
Au lendemain du combat entre Canelo Alvarez et Avni Yedirim, il va y avoir un appel d'offres pour aller chercher un nouvel aspirant obligatoire. Est-ce que David, t'es prêt à accepter un combat au lendemain de... Robert Alaric contre Anthony Durell ou Daniel Jacob pour te placer aspirant obligatoire à la WBC?
Absolument.
Pour Junior, honnêtement, j'en ai rien à foutre de ce qui se passe avec lui, fait que je m'interroge pas à son sujet.
Voici deux boxeurs qui ont eu le mérite d'être assez clairs cette semaine. T'sais, moi, j'ai passé des heures à écrire ma question à David Lemieux parce que je trouve que le journaliste de boxe moyen... il décode pas les signes. Tu sais, David Lemieux, là, il y a des classements qui font que c'est pas nécessairement lui qui va choisir la suite des choses. Tu sais, la WBC, avoir besoin d'un aspirant obligatoire, elle va appeler David. David va dire oui ou non, puis là, il va avoir un autre adversaire. C'est pas toujours aussi simple qu'on va toujours choisir l'adversaire. Quand tu es dans les classements, ben, il y a une logique, puis il y a des appels d'offres, puis il y a une enveloppe. Fait que là, moi, je pense... que la prochaine décision à David, au lendemain de Talarek, ça va être de dire oui ou non pour un combat d'aspirant obligatoire contre le boxeur que vous voudrez, là, Daniel Jacob ou Anthony Durell. C'est pas mal eux qui sont dans les mêmes classements. Cette semaine, il y a eu trois, pas une, pas deux, pas trois, quatre, il y a eu, je pense, cinq conférences de presse. Okay? C'était épouvantable. Moi, j'essayais d'être partout en même temps pour vous autres, mes fidèles auditeurs. Donc, je me suis installé, puis là, je vais y aller en ordre que je me rappelle. Il y a eu la conférence de presse pour Christian Mbidi. Là, je me suis connecté. Là, Christian y a parlé. David Lemieux a parlé. Simon Kane a parlé. Tout le monde était content. Premier dossier, Christian Mbidi. On passera pas par 42 chemins. Il nous a tout expliqué comment que c'était un défi important. Yevgen Kitrov, le soir même, Kitrov a des problèmes. Il y a eu la COVID-19, puis ses poumons ne se sont pas placés. Mais pas placés, c'est qu'il n'arrive pas à s'entraîner parce que ses poumons n'ont pas complètement récupéré de la COVID-19. Fait que Yevgen Kitrov sort du combat. Et là, on trouve un Russe, mais je vous le dis, là, un Russe mauditement dangereux, Vladimir Shishkin. Et là, on amène Shishkin pour affronter Mbili, mais Shishkin, entre-temps, s'était pris un combat en Colombie. Puis fort, je vais y aller. Il sort atrocement coupé d'un combat de 10 rondes. Fait qu'il n'y a plus d'adversaire pour notre ami Christian Mbili. Fait que là, je ne sais pas comment... On cherche un autre adversaire, le 18 mars s'en vient vite. Il n'y a plus d'adversaire non plus pour Arslanbek Makhmoudov. Le combat du 20 mars est repoussé début avril. Donc, à suivre, ils vont trouver d'autres adversaires. Les fameuses conférences de presse. Moi, je m'installe sur ma table de travail qui ressemble aussi étrangement à ma table de cuisine. Et là, c'est ça. Ben là, conférence numéro 1, là, Camille nous a parlé des trois boxeurs. Simon Kane avait l'air particulièrement bien dans sa tête, reposé et joyeux. Moi, je vous le dis, là, je regardais Simon, puis là, je me disais, écoutons Simon, il a l'air transformé, il a l'air bien. Tu sais, pour quelqu'un qui se fait toujours écœurer ses médias sociaux, il a l'air en superbe condition physique, il a l'air bien mentalement. Il nous a dit que de côtoyer Vincent Auclair, ça a donné, sans dire un second souffle à sa carrière, ça lui a fait du bien. Tu sais, ça l'a replacé, ça a stabilisé des choses, ça lui a redonné le goût à la boxe. Fait qu'on va... Simon prétend qu'il est revenu un peu... Désolé, je me cherche une position pour vous parler, je suis pas confortable. Il raconte qu'il est devenu un boxeur peut-être plus studieux en gymnase, plus proche des fondamentaux comme la défensive et les déplacements. À suivre, Simon qui va affronter Stan Surmac le 17 avril prochain. Là, ensuite, on a eu une conférence de presse, puis ça, je vais vous dire, c'était vraiment intéressant, là. Yvon Michel était en très grande forme. Il nous a annoncé un partenariat avec RDS, où il va présenter des galas en direct du groupe Yvon Michel dans l'avenir. Il nous a parlé de la carte complète. Marie-Pierre Roule contre Camara, je pense qu'on en a fait assez le tour, genre. Barrière contre un gars qui s'appelle Slaughter. Barrière, attendez-vous à quelque chose de spectaculaire. Un poids lourd qui bouge comme un poids moyen. Francis Charbonneau va affronter Alexandre Robert. Je le préférais des jeunes filles parce que lui, c'est un danseur professionnel très costaud qui a commencé la boxe à 35 ans et... Il est bon quand même. Pour son âge, il est bon. Fait que là, ça va brasser entre ces deux boxeurs. Yann Pellerin va affronter Marco Parente, qu'on a déjà vu souvent au Québec. Parente qui a une fiche ronflante de 1 victoire et 4 défaites. On n'a pas d'adversaire pour Volny et Sébastien Bouchard qui n'ont pas encore d'adversaire, mais les contrats seraient signés. Suffit d'attendre et Oscar Rivas va affronter Silvera Louis. Une entente avec RDS, ça c'est intéressant pour Yvon parce que c'est pas juste une entente avec RDS, c'est aussi une entente de promotion où RDS va s'impliquer à vendre des galas, où RDS va avoir une proximité avec les combattants de Yvon Michel pour les placer à Sport 30 ou les placer un peu n'importe quand pendant un programme. Aussi présent le 98.5. Nous, là, les amateurs de sport, on est habitués avec le 91.9 sport, mais le 98.5, il faut savoir que c'est 25 fois plus gros en cote d'écoute puis en part de marché que le 91.9. Fait que c'est, pour Yvon, là, si on compare les deux promotions, Eye of the Tiger puis groupe Yvon Michel, c'est Yvon qui est le mieux placé que ses partenaires. RDS puis 98.5, c'est plus fort que TVA Sport et le 91.9. Il nous a annoncé de la boxe. Il nous en a annoncé. Il a annoncé le 5 mars, Marie-Ève Dicker contre Clarissa Shields. Le 16 mars, son gala. Rivas contre Jennings. Il a annoncé Kim Clavel en finale dès qu'elle sort de Big Brother Célébrité. Il est prêt à aller à Trois-Rivières, où résident Michael Zouski et Marie-Pierre Houle. Et il veut ramener Arthur Beterbiève au Québec en partenariat avec Top Rank. Ça, c'est en 2021. Fait que j'étais content de voir mon ami Yvon en bonne shape. Il y a eu une conférence de presse entre Clarissa Shields et Marie-Ève Dicker, où Clarissa Shields, pour vrai, là, est un petit peu arrogante, là, mais... En même temps, là, les réalisations pour écœurer le monde. Fait que ma petite Clarissa, ben c'est ça, elle écœurait tout le monde, elle nous rappelait à quel point elle est bonne. Puis Marie-Ève, elle souriait, puis elle disait, je suis prête, ça a duré 1h30, ça. Moi, c'était un peu long, dans le fond, hein, pour une conférence de presse. Puis moi, j'ai pas posé de questions parce que j'étais gêné parce qu'il y avait des Américains sur place. Clarissa Shields qui prend un risque financier, elle se bat sur pay-per-view. Elle va être payée avec une cote sur chacun des combats. Mais elle a dit, je suis contente parce que je vais voir combien de billets je vais vendre. Puis je vais pouvoir me servir de ça comme base pour voir éventuellement si j'en vends plus. Puis voir si j'ai réussi à créer un hype autour de mon nom. Alors, c'était la chronique conférence de presse. OK, ma question est pour Yvon Michel. Avec toutes les ententes et les nouvelles qu'on a ce matin, est-ce que vous allez retomber en mode recrutement, aller peut-être trouver les champions de demain? Parce que Bernard Barré a une moyenne assez incroyable quand c'est le temps de trouver le talent à l'international.
Absolument, Laurent. On est en discussion déjà avec des boxeurs. On a une offre de partenariat avec Lou DiBella Promotion pour plusieurs espoirs qui s'en viennent. Effectivement, on est redevenu en mode recrutement. Bernard travaille fort là-dessus. On a déjà des espoirs, des prospects qu'on regarde, qu'on étudie maintenant.
Je me réécoute, là, puis je trouve le monde de la boxe chanceux de m'avoir parce que il me semble que je suis vraiment bon. Tu sais, j'écoutais mon ton sur la question, là, puis c'est un professionnel, ça. C'est aujourd'hui, je vous l'ai dit, hein, je fais 15 minutes par jour, c'est ma nouvelle technique. 15 minutes au sommet. Puis là, je vais coller les 15 minutes, puis ça va donner un podcast 2.0 meilleur que jamais. On a la toute nouvelle chronique Symbiose, sport et culture, société, politique, qui s'en vient avec Frédéric Gagnon, qui va nous parler des Philippines un peu plus tard. Je veux vous dire qu'aujourd'hui, je me suis déplacé au Wembley Arena à Londres pour écouter un gala de boxe au complet sur DAZN en attendant d'écouter Oscar Valdez plus tard en soirée. Et j'ai vu un poids lourd nommé Johnny Fisher défoncer Matt Gordon qui n'avait pas d'affaires dans le même ring. Pauvre monsieur Gordon. Florian Marcoux qui ne se prend pas... j'ai plus d'expression. Désolé. J'ai fait le tour de mes expressions, mais il se prend pas pour un autre à peu près. Très arrogant, très musculaire pour un 147 livres. Il a battu Rylan Charlton, il a gagné toutes les rondes. À un moment donné, il s'est fait pincer par une gauche, s'est relevé, il s'est remis à gagner. Puis là, il était temps que ça arrête, mais toute la carte, là, c'était des guerres nucléaires quasiment. T'sais, Charlton était coupé à grandeur. Après ça, Jordan Gill a fait une bonne performance contre César Juarez. Jordan Gill qui est un espèce de... je vous dirais... un Mathieu Germain. Un gars qui évite la pression, qui est précis puis qui se déplace. T'sais. C'était très bien fait de sa part. Jordan de Thrill Gill. Après ça, il y a un Mexicain qui a surpris... un loco. Gabriel Golas Valenzuela, sacré une volée à Robbie Davis. Swingait-tu à deux mains? Je vous dis, c'était pas beau. Robbie Davis est le boxeur le moins talentueux que j'ai vu dans ma vie, mais il a le cœur grand comme le coin du métro situé au 10719 rue La Jeunesse à Montréal. Et en grande finale, Josh Kelly, qui est un des meilleurs boxeurs amateurs de l'histoire, ok, il a le plus beau jeu de pied de l'histoire des pieds. C'est un des seuls qui était capable de se défendre contre Lomachenko quand il était à son sommet. Okay. Le combat commence, ça va super bien. Il reçoit un coup de coude sur la tête. Il saigne en grandeur. Là, il se remet à bien boxer. Ma Vanesian fonce en fou, mais il est en train de se vider de son sang dans la nuque. Là, un moment donné, Avanesian l'a pincé. Merci, bonsoir. Il a continué à le frapper. Le coin a lancé la serviette. David Avanesian l'emporte et conserve son titre européen. Avanesian était classé 7e dans le monde avant le combat. Fait qu'attendez-vous à ce que ce gars-là réobtienne une chance contre l'élite. Un gars qui est assez bon pour battre du monde dans le top 10, mais pas assez bon pour battre les champions du monde. C'était mon après-midi en Angleterre.
Notre prochaine prise de parole, c'est l'un des meilleurs experts et techniciens de l'histoire de la boxe au Canada, Laurent Poulin.
Premièrement, merci à Christian Gauthier, qui est l'annonceur maison du groupe Yvon Michel, pour Mais vraiment, c'est bon mot, là. Ça a vraiment, ça a pas l'air d'un montage, hein, que j'aurais fait. Merci, Christian Gauthier. Juste vous annoncer que la toute nouvelle formation sur Internet, comment poser des questions lors d'une conférence de presse, va être accessible bientôt pour seulement $13.99. Une petite formation. Je veux faire profiter de mon savoir. Hier, premièrement, je vais vous dire, on est rendu où, là? On est dimanche matin. Je me suis couché, j'étais fatigué mort hier soir. Et là, je me lève de bonne heure. Et là, j'essaye de tout rattraper parce que je sais pas ce qui est arrivé. J'ai écouté le Canadien, puis je m'étais imaginé que la carte au Mexique était à 23 heures. Puis finalement, mais elle n'était pas à 23 heures pantoute, puis j'étais tout mêlé. Elvis Rodriguez a continué à gagner. Elvis Rodriguez, c'est un de ceux qui ont profité de la pandémie pour faire exploser son nom. Je pense qu'il a boxé 4 fois depuis le début de la pandémie. Esquiva Falcao, qui est un des jumeaux qui a aidé David Lemieux à s'entraîner contre Billy Joe Saunders. Ça m'avait surpris. Je m'en vais au centre-ville pour m'acheter des souliers. Je commence à marcher. Je vois les deux jumeaux brésiliens que j'avais vus aux Jeux Olympiques. Les frères Falcao. Fait que je me dis, j'ai deux choix. Soit que je leur parle en espagnol, ou soit je fouille sur Instagram. Là, je m'étais rendu compte que c'était les partenaires d'entraînement gauchers de David Lemieux. Et j'avais écrit un texte. L'âme secrète de David Lemieux avec la photo des Falcao. Puis j'étais sûr que je venais de réinventer le journaliste. Puis je sais même pas s'il y a 30 personnes qui l'ont lu. Alors c'était chronique personnelle. Gabriel Florey Jr. l'a emporté par KO 6e contre Jason Velez. Gabriel Florey Jr. il a seulement 20 ans. Okay? Il a les mains vives. Il vient de Stockton, Californie. Lui, je sais pas pourquoi, mais les gens l'aiment tellement là-bas, il pourrait remplir à craquer l'aréna. Okay? Le monde, il capote bien raide sur Gabriel Florey. C'est un méga, méga prospect. Et on lui lance des vétérans beaucoup de qualité. Genre, il a envoyé Ryan Kuziewski. On lui a envoyé Jason Velez. On lui a envoyé Matt Conway, Aelio Mesquita, José Ruiz, je suis en train de vous lire BoxRec, mais il a affronté du monde avec beaucoup de qualité. C'est une superstar en devenir. Et en grande finale, Miguel Berchelt a perdu son titre contre Oscar Valdez. Et là, on va se dire la vérité, là, Valdez est sorti comme un monstre. Il a fait un combat parfait. Berchelt, on savait qu'il cognait lourd. On savait qu'il pouvait prendre des coups, mais je sais pas, peut-être que prendre des coups après 38 combats, t'es plus usé que tu pensais, mais Valdez, il l'a débâti. Puis ce qui m'a fait de la peine, c'est quand t'assistes à un bon combat, mais que, tu sais, Berchelt, on a eu peur qu'il soit mort, là. Tu sais, il bougeait pas pendant 3 à 4 minutes. Ils l'ont tourné parce qu'il dormait tête première. Ils l'ont tourné, il avait les yeux fermés, sa femme t'inquiète. Toutes des images que tu veux pas voir en boxe professionnelle. Puis Valdez, lui, il est rendu à 30 ans, c'était... Valdez, c'était une superstar qui était, sans dire qu'il était sur la voie d'accotement, avait pris... on dirait qu'il avait pris ça un peu plus tranquille, tu sais, il a battu Scott Gigg. Puis après ça, on y amenait les adversaires... tranquille, tu sais, il venait de battre Jason Velez, mais tu sais, Velez, il affronte des prospects maintenant. Là, il ramasse le titre. BoxRec, là, comme un meilleur boxeur de sa division, devant Tevin Farmer, Joseph Jojo Diaz, Carl Frampton, Leo Santa Cruz, Shakur Stevenson, on voit là qu'est-ce qui va se promener une catégorie très forte avec beaucoup de jeunes boxeurs. Donc, très intéressant d'avoir été pris par surprise hier soir au réseau des sports. À l'autre poste, Adrien About Problème Brunner. About Billion, excusez. Ça marche pas. Tu sais, c'est AB, je vous dis problème. C'est parce qu'il disait au début, il disait que il était le problème de la boxe américaine. Adrien Bruneur est revenu, s'est battu, ok, il a volé son adversaire, là, comment il s'appelait, ça, sentiment, ce sera pas long, là, je vais vous googler ça, parce que ma mémoire fait défaut ce matin. Adrien, le problème, Bruneur a battu, on m'entend scroller, ça fait professionnel, Giovanni Santiago, ok, il a lancé 80, il a landé 90 coups de poing, Santiago l'a landé 208. Je voyais sur internet tout le monde qui disait ça va être un combat nul. Finalement, 116, 111, 115, 112, 117, 110. Arrêtez d'investir votre argent sur Adrien Bruneur. Ce gars-là est complètement fini. Autant dans sa tête que physiquement. Mais ce que je vais vous dire sur Bruneur, j'ai goût de vous raconter une bonne anecdote. C'est qu'un soir donné, Bruneur est dans un salon de quilles, ok? Puis il se met à gager de l'argent avec quelqu'un dans la foule. Et là, le niaiseux d'Adrien Bruneur, Adrien Bruneur va perdre plusieurs matchs de quilles contre l'individu en question. Et là, il joue à 500 piastres la game, fait qu'il perd 2000 piastres. Là, il est fâché. Il sort du salon de quilles, il sort de l'allée, du salon de bowling, et il va passer le KO au gars à qui il a perdu. Il va lui voler l'argent dans sa poche de manteau, puis il va tout bonnement s'en aller. Le problème, c'est qu'il y a des caméras de sécurité, fait qu'il est appelé en cours pour aller témoigner de ses agissements déplorables. Et Adrien, il y a une réserve face au procès. Là, je vous laisse rire le jeu de mots. Fait, il se pointe un 35 minutes en retard. Puis il dit à la juge, « Savez-vous, je suis qui, moi? Je suis Adrien Bruneur. » La juge, elle répond, « Savez-vous, je suis qui, moi? Je suis juge. 30 jours de prison pour outrage au tribunal. » Fait que 30 jours plus tard, Adrien Bruneur, il revient, plus poli, parce qu'il a compris que chaque minute de retard, c'est une journée en prison, tu sais. Puis il admet ses crimes. Puis, ben, je sais pas comment ça a fini. Vraiment que des travaux communautaires, c'est pas la cuillère la plus arrondie du tiroir, Adrien Bruneur. On repassera. En sous-carte de ce gars-là, Otto Wallen est en voiture avec une victoire contre Dominic Brazil. Il a très bien paru, Otto Wallen. Puis Dominic Brazil, dans son premier combat où il était vraiment comme le faire valoir, il a tout donné, puis il a vraiment une bonne attitude. Moi, là, je serais intéressé de revoir Dominic Brazil. Et voilà, en Brazil, le genre d'adversaire que notre ami Arslan Bek Makhmoudov a besoin. L'ancien champion du monde des 135 livres, Robert Easter, passait chez les 140 contre Ryan Martin, qu'on a connu dans le tournoi de la WBSS. Victoire facile de Robert Easter, qui va être un joueur à ne pas négliger chez les 140 livres. Rashi Warren a battu Sharon Carter. Et Zachary Ochoa, qu'on avait connu contre Yves Ulysse, a subi la défaite contre Juan José Velasco, un boxeur qu'on avait connu contre Régis Progrès et Mario Barrios. Zachary Ochoa, un prospect qui aura jamais levé. Je pense qu'on peut commencer à dire ça. Alors, c'était la chronique des combats du week-end. Superbe journée samedi. Moi, je suis resté devant. J'ai écouté au moins 11 combats, une pizza large, un Doritos. Fait que c'est une bonne moyenne pour la journée. Je veux vous présenter la toute nouvelle chronique Symbiose Sport, Culture, Société, avec mon ami Frédéric Gagnon. Frédéric Gagnon, c'est un ami d'enfance, c'est un homme très instruit qui, à chaque fois qu'il commence quelque chose, il a une tendance à le réussir. T'sais, un jour, il s'est levé un matin, il a dit « Je vais être le meilleur improvisateur au Québec. » Mais aujourd'hui, il est au temple de la renommée des improvisateurs. C'est ça, Frédéric Gagnon. C'est un homme aussi très généreux. Si tu as froid, il va te donner un manteau, mais il va te demander la couleur que tu veux pour le manteau. Il est tout le temps généreux x2. Si tu payes une bière d'un bar, il va te laisser la choisir. C'est ça, Frédéric Gagnon. Et aujourd'hui, il nous a préparé une chronique sur l'histoire de la boxe. aux Philippines. Et je dois vous admettre, moi, j'ai eu la chance de l'écouter avant vous autres, que c'est très intéressant. Alors, je vous le présente, Frédéric Gagnon et sa toute nouvelle chronique Symbiose, sport et société.
Hey, salut Laurent, salut tout le monde. La nouvelle chronique, donc chronique 3, et cette semaine, on parle Philippines, une grosse nation de boxe également. Tout d'abord, comment est arrivée la boxe occidentale aux Philippines? Bien, il y avait la guerre Espagne-États-Unis en 1898, une guerre qui a duré 3 mois, que les Américains remportent, et dans le deal de paix, l'Espagne cède ses colonies, dont les Philippines. On espérait que les États-Unis reconnaîtraient l'indépendance des Philippines, mais c'est plutôt le début de l'impérialisme. Ils décident d'occuper les Philippines et il y a une guerre de 3 ans qui s'ensuit avec beaucoup, beaucoup de morts du côté philippin. Ensuite, c'est l'occupation et donc là, il y a beaucoup de soldats sur place, beaucoup de marins, parce que les Philippines, c'est 7641 îles, alors un grand territoire à couvrir. Et qui dit soldats, dit partez. Et là, c'est tellement la débauche que les stratèges militaires là, ils décident d'instaurer des camps de boxe, des galas même, et là, d'avoir des soldats qui ont un mode de vie sain, qui s'entraînent pour devenir le meilleur, prep meal le dimanche, de l'alcool juste le samedi, alors tout devient mieux au niveau des désertions, des problèmes d'alcool et des MTS. D'un autre côté, tu as les travailleurs philippins, puis aussi des prisonniers de guerre là dans des camps qui sont initiés au rudiment de la boxe. Il y avait déjà la boxe Suntukan aux Philippines, et là, ils apprennent à boxer avec des gants, et ils deviennent très, très bons. Et autour des années 20, il y a Pancho Villa, un premier grand boxeur philippin qui a pris le nom d'un révolutionnaire mexicain, là, un excellent hommage, notamment dans le contexte d'une occupation américaine, et un gros coup de marketing, là. Je suggère peut-être à Marie-Pierre Roule de penser au nom de Rosa Luxembourg, ou même à Jean Pascal de penser au nom de Louis Riel, ou pour célébrer ses origines à Toussaint l'Ouverture. Alors, Pancho Villa, il s'en va aux États-Unis. C'est tellement un gros show, là. Il est extrêmement rapide, toujours en mouvement. Et lui aussi, là, il mêle les techniques Suntukan à la boxe occidentale. Il devient donc champion du monde. Malheureusement, il pogne une infection aux dents qu'il ne fait pas traiter. Il continue à faire le party et finalement, il meurt sur la table d'opération à 24 ans. Alors, toujours aujourd'hui, très connu là-bas aux Philippines. Et il a vraiment été un symbole dans les années 20 afin de démontrer que les Philippins étaient capables de prendre le contrôle de leur destinée. 20 ans plus tard, un autre héros émerge. C'est un peu le Maurice Richard des Philippines qui a redonné espoir à tout un peuple après l'occupation américaine qui termine en 1946. Mais les années 40 ont vraiment été dures pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc là, c'est vraiment une belle époque pour ce nouveau héros, Gabriel Flash Elordi, qui était non seulement un grand boxeur, mais un grand homme, s'est beaucoup impliqué dans sa communauté. Et encore aujourd'hui, on enseigne son nom dans les livres d'histoire, comme un peu celui de votre animateur, Laurent, un jour le sera. Par contre, dans les années 60, en 1965, c'est l'élection de Ferdinand Marcos, qui va devenir un dictateur extrêmement brutal et corrompu, et qui a beaucoup marqué, évidemment, le pays. En 1975, il a tenté de changer son image internationale, de redorer son blason, en organisant le fameux combat Trilla in Manila, Joe Frazier contre Mohamed Ali. Heureusement, à ce moment-là, ça a peut-être un peu fonctionné, mais ce dictateur-là a dû quitter le pays en 1986, et il s'est sauvé et la démocratie est revenue. Et en même temps que la démocratie est revenue dans les années 90, encore un nouveau héros va ressortir, le champion que vous connaissez, un des meilleurs boxeurs livre pour livre de l'histoire, Manny Pacquiao. Donc commence sa carrière qui va le mener à 8 championnats du monde dans 8 catégories différentes, des victoires sur 4 décennies. Alors vraiment un excellent boxeur. Et moi, je vais vous parler un peu de sa carrière politique qui a débuté en 2010, réélu en 2013. Et il a mis beaucoup en place des mesures pour l'aide aux démunis. Il a également joué un rôle dans le processus de paix des indépendantistes moraux. Donc, des belles implications. Par contre, beaucoup de controverses au niveau de ses propos sur l'homosexualité. Également sur la peine de mort. Puis ça, c'est des controverses qui se retrouvent aujourd'hui chez le nouveau président, en fait, depuis 2016, mais le président en titre, Rodrigo d'Ousserté, un populiste notoire qui mène une guerre totale à la drogue. Et en fait, c'est une vague d'assassinats de narcotrafiquants, mais également de toxicomanes, de consommateurs. Il y a également des avocats, des journalistes qui ont été emprisonnés. Alors, c'est vraiment une dérive autoritaire là, qui est notamment condamnée par Maria Ressa, qui viennent d'être emprisonnés pour 6 ans pour un motif là, complètement fallacieux. D'Ousserté demeure populaire, là, mais faut dire qu'il met beaucoup en place des infrastructures et qu'il a succédé à plusieurs années de démocratie élitiste. Donc, ça, c'est le portrait actuel. Et en fait, il faut savoir que les élections, c'est l'année prochaine, en 2022, et que D'Ousserté ne peut pas se représenter parce que c'est un mandat de 6 ans. Et il est non seulement homophobe, mais tellement sexiste que souvent les autoritaires, là, ils veulent nommer quelqu'un de leur famille, mais lui, il veut pas nommer sa fille parce qu'il pense qu'une femme peut pas être président. Alors là, il pense à quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre-là, c'est Pac-Man. Oui, Manny Pacquiao vient de remporter la présidence du parti, et tout semble indiquer qu'il va se présenter en 2022. Et là, on verra si sa combinaison gauche-droite en termes de mesures populistes lui permettra de remporter l'élection, mais il y a vraiment de fortes chances. Il est très populaire et son parti est très populaire. Alors, on verra si comme président, il va suivre les traces de D'Ousserté. Je ne le souhaite pas. J'espère qu'il sera plus progressiste. Au niveau de la boxe, je rappellerai que 50% de la population a moins de 25 ans. Alors, on ne manquera pas de recrues philippines à l'avenir. Alors, c'est tout pour cette semaine. Je vous remercie et on se voit bientôt.
Il m'a promis que Martel, on l'a envoyé à l'hôpital pour la Saint-Valentin. C'est là qu'il va aller, le Québécois, Martel.
Alors, c'est déjà le temps de se dire au revoir. Chronique, conclusion cette semaine. Alors, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous souhaite, si vous m'écoutez dimanche, avant ou après, je vous souhaite un blanchissage de Jake Allen pour qu'on ait du fun toute la semaine à radio et s'entendre se chicaner à savoir qui doit garder le filet. Ça, là, moi, je vais vous le dire, là, j'ai pas besoin d'un film d'Hollywood avec des feux d'artifice, ok? Un bon débat à savoir qui est gardien numéro 1 avec 137 heures de radio pour s'obstiner. Je suis heureux. Moi, mon média préféré, c'est la radio puis DAZN. J'ai pas besoin de rien d'autre dans la vie puis tout.tv de ce temps-ci pour me garder instruit. Les combats à surveiller la semaine prochaine. Joseph Parker va affronter Junior Fa. Junior Fa, c'est le dernier individu sur Terre à avoir vaincu Arslanbek Makhmoudov. Il avait dansé autour en lançant des deux mains. Junior Fa est un excellent boxeur. 19 victoires, 0 défaite, 10 victoires par KO. Il va affronter Joseph Parker, lui aussi de la Nouvelle-Zélande. Parker, 27 victoires, 2 défaites, 21 victoires par KO. Ancien champion de la WBO, seulement 29 ans, me donner une idée plus jeune qu'Oscar Rivas. Parker, il reçoit une commandite de 1 million de dollars US. C'est le porte-parole de Burger King en Nouvelle-Zélande. Pour vous donner une idée, c'est à peu près les montants que touche Marie-Pierre Houle avec pour être commandité par les assurances Yves Lévesque. On parle de beaucoup d'argent. Donc, c'est vraiment le combat à surveiller. Il va y avoir, moi, il y a un combat qui m'intéresse, là, Emilio Ayo. Mais là, gardez son nom en tête, là. C'est un petit jeune, il est 16-0, 11 KO, un poids lourd de seulement 6 pieds qui me rappelle David Toit. Il va affronter... Imaginez comment c'est drôle. Il mesure 6 pieds. Il pèse 230 livres. Et là, c'est le combat revanche. Il va affronter Julius Long. Là, écoutez bien. Là. Il s'appelle Long. L-O-N-G. C'est 20 ans contre 43 ans. Et c'est 6 pieds contre 7 pieds 1. Julius Long, 18 victoires, 24 défaites. OK? 7 pieds 1. Un gars qui a déjà affronté Tyfield, il nous avait organisé ça, il faisait exprès. Là. Il mettait contre Tyfield parce que c'était 7 pieds 1 contre 6 pieds 10. Puis là, il disait le combat le plus haut de l'histoire. Il avait organisé un combat contre Raymond Louboual à Toronto. Il était venu affronter Louboual, il avait perdu au quatrième. Louboual qui mesure 6 pieds 7. Vous voyez, genre, toute sa vie, lui, ça a comme été une bête de cirque parce qu'il mesure plus de 7 pieds. Il y avait affronté Alexander Ustinov qui mesure 6 pieds 9. Il boxe depuis la nuit des temps. Il a passé pro en 2001. Là, imaginez, il va affronter un gars qui est né en 2001, en Emi Ayo. Un boxeur explosif qui devrait avoir une carrière juste correcte. Là. Tu sais, attendez-vous pas à ce que ce gars-là soit champion du monde. Emi, H-E-M-I, espace A-H-I-O. Allez le surveiller sur BoxRec, ceux que ça intéresse. Sinon, la semaine prochaine, Julio César Martinez va affronter McWilliam Arroyo. Zai Le Zhang, un Chinois, un prospect de 37 ans, un ancien médaillé olympique qui ouvre la machine, veut sa passe, sa cause dans son cas, va affronter Jerry Forrest qui vient de risquer une victoire. Il a fait assez proche de battre Carlos Takam. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que la finale, c'est Saul Alvarez contre Hafni Yildirim et bof. Quand même bien, je voudrais vous en parler jusqu'à demain. Saoul va gagner facilement. À l'autre poste, Money Powell, le quatrième, va se battre. C'était un ancien prospect, mais ça va pas si bien que ça pour lui. Sinon, c'est tranquille. Personne ne veut vraiment arriver avec un show puis faire face à Saoul Alvarez. Tu laisses Canelo gagner, puis on fera une carte une prochaine fois. On a vraiment eu une grosse semaine de boxe. On a eu une grosse semaine de conférences de presse. Je retourne travailler. Mais ça va donner des bons résultats parce que quand je travaille, une affaire que je fais jamais en général, je réfléchis puis je pense. Donc ça va nous donner vraiment des bons podcasts. Fait que allez voir Poulain Tremblay. On a reçu Karim M. Lili, un type incroyable. On a eu beaucoup de fun. Allez voir ça sur la page Facebook de Boxing Town Québec. BoxingTownQuébec.ca, BoxingTownQuébec.com pour lire des articles qui datent de 91 parce qu'on n'update jamais la page. Laurent s'écoute parler, disponible partout. Je veux pas que vous me donniez de l'argent, je veux pas que vous vous abonniez à un Patreon parce que j'en ai pas. Tout ce que je veux, si t'aimes le podcast, tu trouves ça bon, tu trouves ça intéressant, t'es diverti, parle-en à un ami. C'est tout ce que je te demande. Je veux pas ton argent, je veux pas ton amour à la maison. Je veux juste que t'en parles à un ami. Pas bien ben compliqué. Fait que merci d'avoir été là. Je vous aime tous et chacun. Et à la prochaine!